Et à chacune, bienvenue pour ceux qui viennent pour la première fois, pour ceux qui viennent pour la deuxième, la troisième fois, qui se disent voyons un peu si ce que j'ai entendu les fois d'avant, c'est toujours la même chose. Nous avons eu un temps de louange où la grâce de Dieu a été célébrée et nous avons eu cette parole aussi, je sais, même si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais le même, je sais que tu m'aimes. Nous savons. Des fois nous éprouvons, des fois nous expérimentons, des fois nous ne ressentons pas, mais nous savons. Je vous invite tout de suite, nous allons lire, nous avons une lecture un peu abondante, parce que je adresserai un message un peu sur deux parties, je poursuivrai dimanche prochain. Donc je vous invite tout de suite à lire, d'abord nous allons lire trois textes, dans Luc 4, dans Luc 8 et dans Jean 20. Luc 4, les versets d'abord 16 à 21. Luc 4, 16 à 21, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ensuite, nous allons lire dans Luc au chapitre 8, nous lirons aujourd'hui les versets 26 à 39, et puis je dirai quelques mots sur les versets 40 à 56. Luc, chapitre 8, verset 26. « Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans des déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus, ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoyait en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et enfin, nous lirons dans Jean, au chapitre 20, les versets 30 et 31. Jean, chapitre 20, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans le texte, le premier texte que nous avons lu, de Luc 4, Jésus reprend donc la prophétie d'Ésaïe, qui est donnée en Ésaïe 61, prophétie qui le concerne, et se l'attribue purement et simplement en annonçant que aujourd'hui cette parole est accomplie. Une année de grâce du Seigneur va s'ouvrir. Alors une année de grâce du Seigneur, c'est une année divine, ça peut durer des milliers d'années. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que nous sommes dans ce temps de la grâce. Cette année de grâce est à comparer au jour de la colère, que Jésus ne reprend pas là dans ce texte, mais ce jour de la colère qui viendra lorsqu'il reviendra, non pas pour sauver cette fois-ci, mais pour juger. Une année de grâce donc s'ouvre, voilà ce que Jésus annonce en reprenant cette prophétie. Et cette année va s'ouvrir au moment où Jésus parle, pour remplacer le régime ancien de la loi, imparfait, qui nous condamnait et ne pouvait ôter le péché et nous purifier. Nous avons beaucoup ce matin, et Seigneur, purifie-nous. La loi ne pouvait satisfaire à cela. Dans le texte de Luc 8, ce texte sur cet homme rempli d'esprits mauvais, de démons, et dans les deux récits que je n'ai pas, les autres récits que je n'ai pas lus, que nous lirons la semaine prochaine. L'un concerne un responsable religieux, Jaïrus, qui est dans une détresse parce que sa fille est mourante. Et d'ailleurs, elle va mourir. On lui dit, n'embête plus le maître, elle est morte, c'est fini. Et on sait que Jésus la ressuscitera. Et puis, le dernier miracle qui nous est signalé, c'est cette femme qui, depuis 12 ans, avait des écoulements de sang. Il faut savoir que toute la honte qui était attachée à cela, parce que la loi de Moïse disait que dans les jours où les femmes avaient finalement leur perte de sang, c'était des jours impurs, et là, ça faisait 12 ans que ça continuait. Elle avait épuisé tous ses moyens dans les médecins, et on va voir que cette femme ose toucher Jésus, et elle est guérie. Nous avons ces trois miracles qui sont rapportés. Aujourd'hui, j'ai relu que ce texte, parce que je voudrais m'attarder sur celui-là, mais nous les reprendrons parce qu'ils font vraiment partie de ces miracles que Dieu a donnés afin que nous croyions. Ils ont été donnés, bien sûr, pour manifester la puissance, miséricorde de Dieu, son amour pour nous, mais ils ont fondamentalement été donnés en ce temps pour que nous croyions. Et enfin, dans ce troisième texte, à la fin de l'évangile de Jean, un point essentiel nous est livré, oui, c'est ce que je dis, Jésus a accompli beaucoup de miracles, et aujourd'hui encore, c'est lui qui a la puissance pour guérir, pour restaurer, pour consoler, tant l'esprit abattu que l'âme dans la fosse ou le corps malade. Et ça, c'est son mandat qu'il signale en reprenant cette prophétie d'Ésaïe 61. Mais Jean nous dit donc par-dessus tout que ces miracles nous ont été rapportés afin que nous croyions que Jésus est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom, c'est-à-dire la vie éternelle, rien de moins, car Christ est ressuscité. Et si l'Esprit de Christ qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, nous dit la parole également, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous, afin que vous croyiez. C'est ce message que je partagerai sur ces deux dimanches. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la situation de cet homme qui était tourmenté et habité par des esprits mauvais et méchants. Et puis dimanche prochain, nous verrons les deux autres situations et nous tirerons les points communs entre ces trois miracles et comment ils concourent à fortifier, à établir et à bien poser notre foi. L'homme possédé donc par une légion de démons. Notez au passage que cet homme confesse finalement, du moins les démons confessent par sa bouche, que Jésus est le Christ. C'est quand même extraordinaire cette histoire. C'est quand même une histoire à caractère surprenant. J'ai échangé cette semaine avec une personne qui est venue dans l'église et qui, je l'espère, reviendra. Je disais, mais quand même, le diable, bon, dimanche dernier, parler du diable, de gens qui pouvaient être animés par un esprit mauvais, ça paraît un peu désuet. Et ce matin, pendant le temps de louange, je me disais, c'est peut-être l'un des sens aussi du culte et de nos rassemblements. Nous nous rassemblons dans un lieu où nous proclamons ces choses surprenantes, ces choses que le monde ne peut comprendre, mais que Dieu veut révéler à nos cœurs. À la fois la réalité divine, la réalité du salut, nous le proclamons pendant les louanges, mais aussi la réalité de l'ennemi de nos âmes, de l'adversaire de nos âmes, celui qui veut égorger, détruire, tuer. Et je crois que dans la parole qui nous a été donnée, je la reçois du moins comme ça ce matin, il me semble que ce sang qui s'écoule de la bouche, on voit bien qu'il y a quelque chose de très mauvais, oui. C'est le crime. Et qu'est l'autre que le diable et le père du mensonge, celui qui veut tuer, égorger. Et je crois qu'il y a du sens ce matin dans cette parole qui a été amenée, va bien avec cette situation qui nous est décrite dans la parole. Un homme rempli de démons, je rappelle que les démons sont ces anges déchus, vient au devant de Jésus, alors que Jésus avait évidemment discerné la présence spirituelle néfaste, démoniaque, qui avait pris possession de cet homme depuis longtemps, nous dit la parole. Et Jésus ordonne à cette puissance de sortir. Les démons s'expriment en utilisant le corps de cet homme et demandent un sursis. Laisse-nous aller, laisse-nous entrer dans des pourceaux qui paissaient là, dans les prairies. Jésus le leur permit, vous a-t-il dit. On voit au moins là, clairement, qui a autorité dans cette situation. Ils entrent et conduisent le troupeau à la destruction. Les témoins de cette scène répandent la nouvelle dans la ville et les campagnes. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Et que trouvent-ils ? Celui qui était démoniaque, que tout le monde connaissait, vêtu, assis au pied de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Et avez-vous remarqué que... Qu'aurions-nous fait, nous ? Franchement, un homme qui est possédé, c'est une souffrance inimaginable, j'y reviendrai tout à l'heure. Possédé par des démons. Il est possédé par quelque chose qui est plus fort que lui, par définition. Eh bien, cet homme, le voilà maintenant, j'allais dire instantanément, assis, vêtu, lui qui marchait nu ou dans des haillons, qui vivait dans les sépulcres. Eh bien, ils ne se réjouissent pas de ce qu'un homme est maintenant libre. Mais ils sont saisis de frayeur, au point que tous les habitants demandent à Jésus de partir. Qu'est-ce que nous enseigne ce passage ? Premièrement, les ténèbres ne supportent pas la lumière. Les démons sont donc ces anges déchus qui ont suivi Lucifer. Lucifer, je rappelle, ça veut dire porteur de lumière. Qui ont suivi Lucifer, cet archange puissant, dans sa révolte et sa rébellion contre Dieu. La conséquence de cette rébellion nous est explicitée, notamment dans Apocalypse 12 au verset 9. Instantanément, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges, qui l'ont suivi dans sa rébellion, furent précipités avec lui. Ils ont été précipités du ciel, ces esprits qui vivaient dans la présence de Dieu, qui louaient, ont été précipités. Retenez bien le mot, précipité. Il y a une action puissante, violente, instantanée. Instantanée, le jugement ne s'est pas fait attendre. Ils ont été précipités sur la terre. Et aujourd'hui, ils œuvrent. Soyons précis, Satan n'est pas lié, il est limité. Aujourd'hui, mais il n'est pas lié, ça se saurait. Et il agit aujourd'hui sur la terre. Ces esprits méchants qui ont une discipline de fer sous l'autorité de Satan agissent à travers des hommes, des situations, des puissances, des autorités. Ils œuvrent sachant qu'ils ont peu de temps. Le peu de temps, il faut l'entendre, ils n'ont pas l'éternité. Ils sont destinés, la parole nous le dit, à une existence sans fin. Ils sont destinés au feu, à la fournaise éternelle, au tourment éternel, séparés de Dieu. Le jugement est prononcé, il sera exécuté lors du jugement dernier. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Satan et ses anges peuvent opérer dans une certaine limite. À la fin des temps, Satan sera lié, puis au jugement dernier, il sera jeté dans les temps de feu avec ses anges et avec les incrédules qui, malgré toutes les manifestations de Dieu, sa parole qui aura été prêchée, annoncée à toutes les nations, malgré le retour de Jésus-Christ, malgré son règne de justice, de paix et d'amour qui se manifestera pendant de longs siècles, ne l'auront pas accepté comme le seul médiateur, comme celui qui a été fait Seigneur, comme celui qui est assis à la droite du trône de Dieu. Ils seront à ce moment-là, effectivement, cela est solennel, jetés dans les temps de feu avec Satan et ses démons. Revenons à cet épisode. Cet épisode se situe dans un temps transitoire entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La promesse faite à nos pères à plusieurs reprises est accomplie. Jésus dit cela car il est là. Il est là. Un enfant nous est né, c'est le Fils qui nous est donné, et lui, il n'est pas précipité. Il n'est pas jeté hors de la présence du Père, mais il est donné. Le Fils qui est avec le Père dès le commencement est donné. Il n'a pas revendiqué son égalité, mais en accord avec le Père, il vient s'incarner sur cette terre et vivre au milieu. Mais il est Dieu, il est celui qui était dès le commencement. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le diable, l'adversaire de nos âmes, le meurtrier, dans sa rébellion a été précipité. Le Fils, la sagesse, celui qui est dès le commencement, par qui tout a été fait, n'a pas revendiqué, lui, sa condition humaine, mais dans une obéissance, dans une soumission à son Père, une soumission de cœur, n'a pas revendiqué son égalité, il s'est humilié, il est venu, il s'est donné sur la terre, voyez-vous, les deux choses. C'est pourquoi ça a été redit dans une prière. Le Père l'a souverainement élevé et l'a établi au-dessus de toute autorité, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et dans cette scène, nous voyons cette transition avec la manifestation du Fils de Dieu. Et là, nous voyons qui a autorité. L'Ancien Testament nous donne à voir des miracles et des prodiges impressionnants. Pensons à Pharaon avec tous les magiciens et devins qui combattent la puissance manifestée par Moïse et Aaron. Pensons aux interventions de Dieu. Il y aura des morts surnaturelles, des résurrections, Élie, Élisée, des tremblements de terre, la révolte de Corée. Mais nous ne voyons pas une scène comme celle qui est là. Un homme possédé par une puissance qui le dépasse et le maintient dans un véritable esclavage de violence, de misère et de malheur, on dirait aujourd'hui un forcené, un malade psychiatrique profond, enfermé dans une camisole chimique, que l'homme n'ose pas desserrer car on ne voit pas comment s'en sortir, sinon avec des solutions bien laborieuses. Si nous considérons en effet cette situation, concrètement, cet homme vivait depuis des années sans vêtements, c'est-à-dire nous en haillons, dans les sépulcres, et non sous un toit, fut-il modeste, ingérable, manifestant une force surhumaine, brisant des chaînes. Et aujourd'hui, même ceux qui ne croient pas voient bien dans des situations qu'il se manifeste aujourd'hui dans ce monde, à travers des personnes qu'on essaye de mettre de côté. Et bien là, cette scène-là, on ne la voit nulle part dans l'Ancien Testament, on ne la voit qu'ici. Et bien cet homme-là va se retrouver. Parce qu'il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Instantanément, il a été libéré de ce qu'il tenait esclave. Il s'est retrouvé assis aux pieds de Jésus, vêtu dans son bon sens. Voilà ce qui va se manifester, non pas une fois, mais des centaines de fois, là où Jésus passe. À travers ces miracles, bien sûr, Jésus accomplit la prophétie d'Ésaïe, qui est son mandat, et manifeste son amour pour sa créature abîmée par le péché, mais aussi, il y a une dimension comme prophétique. Il prépare les temples où il a décidé de faire sa demeure, car c'est là la nouvelle alliance qu'il va sceller par son sang à la croix. Voyons dans cette scène le Dieu puissant manifesté en Jésus-Christ, l'empreinte du Père qui vient sur cette terre. Et là, le combat se livre là, en cette présence. Jésus vient préparer les temples où il a décidé de faire sa demeure. Voilà la nouvelle alliance. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne pouvez, que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Changement de possession. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Jean 14, verset 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean 14, verset 23, « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Il prépare les temples où il a décidé de faire sa demeure. Il nettoie les temples. Cette scène nous met donc dans une confrontation directe de deux puissances spirituelles. Je l'ai dit, l'adversaire de nos âmes, le serpent ancien appelé le diable, celui qui divise, celui qui, par la séduction, a poussé l'homme qui vivait en communion avec le Créateur à revendiquer, à se séparer de lui en prenant, arrachant son indépendance et poursuivant sa route dans une rébellion toujours plus grande. Cet adversaire a pris des droits par notre propre désobéissance et a rendu plusieurs esclaves, car il est plus puissant que l'homme. Cela aussi nous est rappelé dans l'Écriture. N'injurions pas les gloires, ne menons pas ce combat à la légère. Ce combat ne peut être un combat personnel. Et c'est là l'importance de l'Église. ce combat est celui de l'Église. L'autre puissance, c'est celle du Dieu créateur, manifestée à travers son Fils. C'est la puissance du Fils soumis à son Père, et qui, par une obéissance parfaite, va rétablir l'homme dans sa relation avec son Créateur. Je l'ai dit tout à l'heure, le premier a usurpé et a été précipité sur la terre. Le second, Jésus-Christ, n'a pas revendiqué son égalité avec le Père et s'est abaissé du ciel sur la terre. Il est venu, né d'une femme, né sous la loi, conçu du Saint-Esprit. Et dans cette situation, la confrontation a lieu sur terre, mais elle est spirituelle et inédite. D'où la surprise de ceux qui en sont témoins. Mais quel est celui-ci qui a le pouvoir de chasser les démons et les esprits impurs? Qui est celui-ci qui pardonne les péchés? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ceci nous est rapporté, afin que nous croyions, afin que vous croyiez aussi que Jésus est le Fils de Dieu et que vous ayez la vie en son nom. Voilà une des dimensions de ce miracle extraordinaire que Jésus veut toujours accomplir aujourd'hui. Je voudrais, avant de conclure, poser cette question. La libération d'un homme de cette situation nous réjouit-elle? Manifestement, la frayeur qui a saisi ceux qui ont vu cela, c'est sûrement pas de voir un homme assis et vêtu dans son bon sens. Ça amène plutôt la paix. Je crois que ce qui les a effrayés, c'est le risque de perdre le troupeau de porcs. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Considérons les choses, la situation qui nous aurait portée par Luc. Cet homme tourmenté, habité d'esprit méchant et impur, il est sous nos yeux tous les jours. Et conduisent aujourd'hui les autorités de nos pays, dits développés, évolués, post-modernes. Aujourd'hui, les autorités même de ce pays sont inquiètes, tant se multiplient les enfermements psychiques de toutes sortes, provenant souvent d'addictions diverses. La psychologie, qui vise à comprendre l'âme humaine, ne cesse de chercher, d'inventer des mots pour décrire ces situations nouvelles. Et les mots fleurissent, se multiplient. Remarquons que décrire des pathologies, ce n'est pas résoudre. J'ai eu l'occasion, les premières années de ma conversion, à travers des témoignages, de fréquenter, rendre fréquemment, vraiment, dans les hôpitaux psychiatriques. J'y allais pendant 3-4 années, deux fois par semaine, pour rendre visite. Et j'ai découvert, j'habitais dans une commune au nord de Rennes, j'ai découvert 4-5 jeunes voisins, des enfants de voisins, des jeunes entre 25 et 30 ans, intellectuellement brillants, mais perdus. À cette époque, c'était beaucoup par la drogue. Aujourd'hui, d'autres addictions se sont ajoutées. La drogue n'a pas disparu, mais d'autres addictions se sont ajoutées. Et elles plongent dans les ténèbres. Elles plongent dans des enfermements sans nom. Que de souffrance. Que de souffrance. Lorsque parents, frères ou sœurs, nous sommes concernés par de telles situations. Tous ne vivent pas dans des cimetières. Mais combien, à travers des jeux de rôle et autres stratégies et puissances de raisonnement, sont plongés dans les ténèbres. Le monde se désole, met en avant les moyens techniques, financiers, des lieux pour accueillir, accompagner par l'aide psychologique, mais le monde n'est pas prêt à abandonner ses troupeaux de porcs, son business pour autant. On s'occupe de ces situations pour que le business puisse continuer. On voit dans la rue nombre de personnes marcher d'une allure qui montre clairement que des traitements puissants sont là. C'est la réalité, frères et sœurs. Et je crois que l'Église ne doit pas dire, eh bien, ça c'est tel cas, ça c'est tel cas. L'Église de Jésus-Christ, voilà les défis. C'est peut-être pas ceux qu'on attendrait et qui sont les plus faciles. Mais c'est ça, le défi de l'Église de Jésus-Christ. On veut bien soigner ceux qui sont esclaves de toutes sortes d'addictions, mais non renoncer aux revenus que procure le commerce de ces choses. Jésus prévient en Luc 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et je pense particulièrement à la jeunesse. Je pense particulièrement à la jeunesse. Vous voulez vous dire qu'on ne peut pas jouer avec ça. Mais je veux donner une véritable espérance. C'est-à-dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a libéré cet homme, pris par ses puissances depuis des années, il peut libérer de la même manière aujourd'hui celui qui vient se jeter à ses pieds. Se jeter à ses pieds. Sortant de son enfermement, de sa honte. Ces choses nous dépassent, ces puissances-là. On ne peut pas les combattre seul. Ce n'est pas une affaire d'un ministère, aussi puissant, aussi réputé soit-il. C'est l'affaire de l'Église de Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui en venant dans ce monde, a vaincu ces puissances-là. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Combien parmi les plus jeunes, pas seulement, mais c'est tellement fort, et il y a tellement de sollicitations, sont aujourd'hui, un jour, se réveillent, après avoir joué, après avoir touché à des choses, avec des esprits de mort, des puissances de la mort, l'attrait de la mort, et s'enferment encore plus loin. Je supplie ce matin. Je veux dire, je veux vous dire, je veux nous dire que le Christ est le même, et qu'il est celui qui délivre de ces choses, lorsqu'elles sont amenées à la lumière. Et ça passe, oui, par aussi une confession des choses qui ont été faites, non pas pour écraser, pour libérer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Frères et sœurs, je crois que c'est une grâce que l'on puisse aborder ces sujets. Et je crois que l'Église, ce lieu où nous nous rassemblons, il est fait pour cela. Et vraiment, ce matin, je me disais, nous savons que les choses vont se resserrer. Mais tant que le Seigneur nous donnera des forces, nous proclamerons ces choses, la vérité de l'Évangile. une puissance pour quiconque croit. Ce matin, plusieurs sont sans doute interpellés par ces textes. Car aujourd'hui, on ne croit ni en Dieu, ni au diable. Mais ce dernier se déchaîne et enchaîne les vies dans les secrets enfouis, la honte qui emprisonne. Ce matin, je veux confesser la parole de Dieu et je vais prier pour que plusieurs se l'approprient. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort qu'il a subie, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, c'est ainsi qu'il s'appelle, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tu as peut-être la crainte de la mort, tu as des pensées de mort, tu as des choses qui te poussent vers la mort ce matin. Jésus-Christ est mort pour te libérer de cette mort. Je vais prier maintenant pour cela. Seigneur notre Dieu, tu es le prince de la vie. Seigneur, je confesse ce matin ta parole. Tu n'es pas simplement venu, Seigneur, pour nous donner un bon exemple. Seigneur, tu es venu pour libérer la vie, pour libérer ceux qui sont captifs dans des liens, Seigneur, qu'ils n'ont pas compris, ils ne savent peut-être pas comment ils sont venus. Mais Seigneur, ce matin, tu veux les révéler, qu'on ne trouve chez toi ni personne qui fasse passer ses enfants par le feu, ni quelqu'un qui consulte l'esprit des morts, quelqu'un qui consulte les magiciens, quelqu'un qui consulte l'horoscope, quelqu'un qui s'adonne à des jeux, à des idolâtries de toutes sortes. Seigneur Jésus, je te prie pour ceux et celles qui se sont laissés prendre plus ou moins consciemment dans ces liens, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu sais les enfermements, tu sais les hontes, tu sais les triples verrous qui sont maintenant mis sur ces situations. Père, je te prie que plusieurs puissent se jeter à tes pieds et qu'ils soient délivrés en ton nom puissant, Jésus. Amen.